Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC. Très bon réveil à tous.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La nuit des Bleus qui électrise le mondial. Ils filent en 16e de finale grâce à leur victoire 3-0 face à l'Irak après une très très longue mi-temps. 2 heures d'interruption, conséquence des orages. La pluie, on en aurait presque envie pour nous rafraîchir. Plus de 90% de la population française se retrouve impactée par une canicule qui a déjà fait plusieurs morts, comme ces deux enfants retrouvés sans vie hier dans une voiture à Carpentras. Et les premières sanctions du gouvernement après la présentation d'un rapport sur les dysfonctionnements dans le sillage de l'affaire Liana.
Première mission réussie pour les Bleus.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et face à l'Irak, les hommes de Didier Deschamps ont fait le travail. Ils décrochent leur qualification en 16e de finale du Mondial grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Le capitaine tricolore marque ses 59e et 60e buts en équipe de France. Ousmane Dembélé débloque lui son compteur dans une grande compétition. Il marque le 3e but, ça fait 3-0 pour l'équipe de France. Au commentaire de cette rencontre, Jean-Louis Tour, on vous retrouve ce matin, Jean-Louis, en direct des États-Unis. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner en raison d'un orage. La mi-temps a duré 2 heures, Jean-Louis.
Oui, exactement. Et du coup, c'est une soirée qui fera date dans la tête des supporters. Parce que là, ce que vous entendez derrière moi, c'est le moment où ils en ont eu marre d'attendre. Alors pour s'occuper, ils ont lancé un karaoké géant, une ambiance boîte de nuit. Ça faisait 2h et 12 minutes que la mi-temps avait été sifflée. La reprise repoussée à chaque fois de demi-heure en demi-heure à cause des orages. Le jeu a pu reprendre. Les chutes d'eau étaient toujours là, mais la foudre était moins menaçante. Alors les joueurs sont occupés comme ils ont pu dans le vestiaire. Ils ont joué aux cartes, nous a lancé Didier Deschamps en plaisantant avant de développer plus sérieusement.
C'est des conditions particulières. On pourra dire qu'on l'a connu une fois. J'espère que c'est la première et la dernière. Après, je comprends. À partir du moment où il n'y a pas de risque à prendre. Donc, c'est le plus long match et la plus longue mi-temps où j'ai pu être sélectionneur. Bon, ça n'a pas d'impact sur le résultat. Je savais très bien qu'il fallait qu'on joue ce soir de par le calendrier après et derrière. Il n'y a pas de possibilité de rejouer demain.
Oui, impossible de déplacer le match car les Bleus rejouent dès vendredi contre la Norvège à Boston où les Bleus viennent d'ailleurs d'atterrir il y a quelques minutes. Un match pour la première place annoncé sans orage à l'heure où on se parle.
Et justement, ce France-Norvège, ce sera vendredi 21h sur RMC. La Norvège qui a battu le Sénégal 3-2 cette nuit et qui se qualifie également pour les 16e de finale. À retenir également la qualification de l'Argentine dans le groupe J grâce à sa légende Lionel Messi. Il offre les 2 buts de la victoire face à l'Autriche et bat le record du nombre de buts inscrits en Coupe du Monde. Au nombre de 18, talonné de près par Kylian Mbappé, qui rejoint l'Allemand Miroslav Klose avec 16 réalisations. Et dans ce groupe J, l'Algérie vient de remporter son premier match. Il vient de se terminer, Lilian Boubnov, face à la Jordanie. Lilian Boubnov qu'on retrouvera plus tard à la Coupe du Monde. En tout cas, vous la vivez sur RMC à suivre ce soir le Portugal ou encore l'Angleterre. Il est 7h04, vous écoutez RMC. La France suffoque déjà. On attend de nouveaux records de chaleur ce mardi. Plus de 450 ont été battus hier pour un mois de juin. On compte également une centaine de records absolus comme à Angers et Rennes où la barre des 40 degrés a été franchie à l'échelle du territoire. Il a fait en moyenne 29,2 degrés. C'est la troisième journée la plus chaude de l'histoire avec une vigilance rouge étendue à 54 départements. Ce midi, une canicule qui met les nerfs à rude épreuve, les infrastructures aussi, c'est le cas des rails avec des perturbations à gare de Bordeaux hier où une partie du trafic a été interrompue. Gare de Lyon à Paris, c'est un TGV qui est arrivé de Bâle au cœur de la nuit avec 6 heures de retard aux alentours de 2 heures du matin. Lou Garnier était à l'arrivée pour RMC.
À la sortie de la gare, Lia est épuisée. Son trajet Mulhouse-Paris aura duré plus de 9 heures, c'est 4 fois plus qu'en temps normal. Son train a été arrêté en pleine voie pendant plusieurs heures et dans les wagons, pas de clim.
C'était étouffant, il n'y a pas d'autre mot. Je respirais mais j'avais pas l'impression d'avoir de l'air en fait. Il n'y avait pas de clim. Ils ont fait une distribution de bouteilles mais au bout d'un moment il n'y avait plus d'eau. Avec le chat c'était très compliqué. On a appris après qu'il faisait plus de 50 degrés dans presque tous les wagons parce qu'on était en plein cagnard. Là j'en peux plus en fait.
Un véritable calvaire, renchérit Jordan.
Il y avait plusieurs malaises, c'était vraiment insupportable. On ne pouvait pas respirer, il n'y avait vraiment pas d'air.
Après plusieurs heures d'attente, ils descendent des wagons pour rejoindre un autre train, direction Paris, où ils arrivent à 2h du matin.
Tout est bousculé, c'est-à-dire que j'avais plusieurs choses à faire dans la journée, dans la soirée. Tout a été du coup annulé.
Lui qui devait dormir chez des proches va finalement dormir à l'hôtel. Un peu plus loin, Jacques soupire, la journée va être longue.
Je suis un peu les yeux comme ça, je me dis comment je vais être, dans quel état je vais être au boulot.
Alors tous espèrent obtenir des explications de la part de la SNCF, ainsi qu'une compensation financière.
Et il y aura des perturbations aussi aujourd'hui dans le métro parisien sur les lignes 5, 6, 8 et 13 en raison de cette vague de chaleur qui a déjà fait plusieurs morts. 13 personnes sont décédées noyées depuis le début de cet épisode. 3 personnes âgées sont décédées chez elles dimanche en Gironde. Hier, ce sont 2 enfants qui ont été retrouvés sans vie à Carpentras, enfermés, Rachel Sadodine, dans le véhicule de leur mère.
Appelés en début d'après-midi, les pompiers découvrent les 2 petits garçons de 2 et 4 ans en arrêt cardio-respiratoire, impossible de les réanimer. Leur décès est constaté peu de temps après. D'après les premiers éléments de l'enquête, les enfants échappent à la vigilance de leur mère, tout juste rentrée des courses, montent dans la voiture garée devant la maison familiale, dans le quartier du Bois de Lubac, et ils s'y enferment. Il fait alors près de 40 degrés à Carpentras. On ignore à ce stade combien de temps les enfants sont restés bloqués à l'intérieur du véhicule. Les autopsies doivent avoir lieu aujourd'hui. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Prise en charge dans un état de choc par les pompiers, la mère de famille de 33 ans n'a pas encore pu être entendue.
Il y aura une nouvelle réunion interministérielle au sujet de la chaleur. Elle doit se réunir dans la matinée autour de Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a reçu les premières conclusions d'un rapport d'inspection accablant dans le siège de l'affaire Liana, révélant des dysfonctionnements individuels et structurels qui ont empêché Jérôme Barella d'être inquiété en dépit d'une plainte déposée pour viol sur mineur contre lui. L'urgence n'a pas été prise en compte, dit Sébastien Lecornu, qui s'engage à ne pas se défausser. Et le gouvernement de prendre des premières mesures, des sanctions, Pierre Bazin, contre plusieurs acteurs de ce dossier.
Oui, la substitut du procureur d'Auch en charge de ce dossier ne peut plus travailler sur des affaires de mineurs, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Laurent Nunez, de son côté, a décidé de muter 2 gendarmes, le directeur d'enquête ainsi que son commandant. Tous se voient reprocher dans ce dossier une défaillance individuelle, manque de considération du caractère urgent du dossier, délaissement de l'enquête, non-respect des procédures établies, manque d'investissement. Toutefois, ce rapport pointe également des dysfonctionnements structurels et un manque de moyens. Pas assez de magistrats au parquet d'Auch alors que la charge de travail était soutenue. Manque d'accompagnement et de formation de la substitut mise en cause, un greffe du tribunal qui croule sous les enquêtes. Autant d'éléments qui ont également entravé les investigations et qui ont empêché l'interpellation de Jérôme Barella avant la disparition de Liana.
Et notez par ailleurs que 134 personnes ont été placées en détention provisoire dans le cadre de la réexamen de 70 000 dossiers pour violences sexuelles sur enfants. À retenir également la panthéonisation de Marc Bloch ce mardi, historien, soldat et résistant assassiné par la Gestapo en 1944. Ce sera la 6e et dernière panthéonisation d'Emmanuel Macron. On revient sur ce match Algérie-Jordanie, la victoire de l'Algérie. 2-1, le match vient de se terminer. Les Algériens étaient menés 1-0, je vous le rappelle. Les Algériens sont 3e au classement de ce groupe J, dominé ce matin par l'Argentine. La Coupe du Monde, vous la vivez sur RMC.
C'était le journal de Thibaut Texer et les toutes dernières nouvelles, évidemment, en direct. Il est 7h09. Tiens, je voudrais en profiter aussi pour vous parler des trophées PME. C'est la 17e édition cette année des trophées PME RMC BFM. Donc, trophée 2026 et les inscriptions se terminent dans quelques jours. Si vous êtes patron, si vous êtes salarié d'une entreprise que vous avez envie de mettre en valeur, eh bien c'est le moment. Les PME, c'est le pilier de l'économie française depuis maintenant 20 ans. RMC les met à l'honneur chaque année et les soutient avec ce premier concours de France. Alors si vous êtes donc entrepreneur, si vous dirigez une petite ou moyenne entreprise, eh bien participez et gagnez peut-être 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC et sur les chaînes BFM locales. N'oubliez pas, Blablacar, Too Good To Go, ils ont commencé chez nous, ils ont commencé avec ce concours trophée PME. Alors comme eux, comme c'est qui le patron également, comme toutes ces marques qui ont joué le jeu et qui ont été récompensées par RMC. Vous n'hésitez pas pour vous inscrire. Vous allez sur le site trophée-pme-rmc-bfm.fr, trophée-pme-rmc-bfm.fr, et il vous reste quelques jours pour vous inscrire et pour gagner. Il est 7h10 et il y a Ethan qui a veillé cette nuit pour regarder les matchs. Bonjour Ethan.
Bonjour Apolline, comment ça va?
Eh ben ça va bien, et vous Ethan? Ethan qui nous appelle de Brest. Alors la nuit?
Fatigué. Si vous ne m'en voulez pas, je pense qu'après l'appel, je vais aller dormir. L'émission en replay, mais je vais aller dormir.
Je comprends bien. Ethan, quel match vous avez suivi cette nuit?
J'ai suivi France-Irak, Argentine-Autriche évidemment, mais ça c'est à 19h. Ouais. J'ai suivi France-Irak, j'ai suivi Norvège-Sénégal et Jordanie-Algérie qui vient du coup de se finir.
Voilà, et qui vient de se terminer, et on le rappelle, l'Algérie qui a gagné 2-1 face à la Jordanie. Dans une maison calme, vide, ou alors avec des amis, avec comment vous avez fait ?
Dans une maison avec ma mère qui bosse, enfin qui se lève pour bosser, et ma sœur qui est très intelligente et qui a décidé de ne pas faire, de ne pas se regarder un Jordanie-Algérie à 5h comme son crétin de frère.
Vous n'avez pas monté trop le son du coup ?
Non, on monte pas trop le son, on essaie d'être discret quand même.
Donc la maison, vous ne pouviez pas crier quoi ?
C'est ça. Après, bon, de toute façon, entre minuit et 2h, il n'y avait pas trop besoin de crier.
Mais ce que je trouve très dur, c'est ça, c'est entre minuit et 2h, c'est veiller en se disant ça va reprendre, sans savoir quand.
Bah justement, c'est pour ça que j'aurais bien aimé dormir. Il m'aurait dit, bon, allez, vas-y, on reprend 1h30, c'est sûr.
Non, en fait, il faudrait mettre un système d'alerte, un système de réveil ne se met en route que quand le coup d'envoi est à nouveau, lancé. Courage, Ethan, du coup, pour la journée. Ça va, vous aviez une journée calme devant vous ?
Non, pas vraiment. Non, je dois me réveiller à 13h. Donc du coup là, j'ai 5h de sommeil devant moi.
Et vous faites quoi à 13h ?
Non, c'est pas. J'ai un rendez-vous à 15h pour l'année prochaine pour les études.
Bon, pour les études. Alors il faut pas le louper, ok ? Donc quelques heures de sommeil et puis cet après-midi on y retourne. Merci Ethan en tout cas. Comme Ethan, vous avez peut-être veillé, vibré. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 32-16. Il est 7h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 7h12, et si c'était dans les églises qu'on faisait classe ou simplement les ouvrir pour aller se reposer, des salles municipales climatisées pour réunir les plus fragiles, pourquoi ces idées simples ne sont pas encore systématisées? C'est ce que vous nous dites ce matin, Franck Lirzin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, vous êtes ingénieur des mines, et face aux canicules, vous dites qu'il faut créer des refuges climatiques. C'est votre parti pris et vous nous expliquez comment dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Comment adapter notre pays aux canicules ? 54 départements en vigilance rouge aujourd'hui. La moitié ouest de la France va une nouvelle fois souffrir et dépasser les 40 degrés. Bonjour Franck Lirzin.
Bonjour.
Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, ingénieur des mines, et vous venez de publier « Habiter un monde qui brûle ». C'est aux éditions de l'Aube. Votre parti pris ce matin, c'est que face à cette situation, il faut créer de toute urgence des refuges climatiques dans les villes. De quoi on parle ?
Alors, des refuges climatiques, c'est des lieux où on peut se rendre à toute heure de la journée pour se rafraîchir. Donc, c'est des lieux qui sont climatisés ou qui sont frais. Donc, ça peut être des églises, ça peut être aussi des musées, des bibliothèques ou des gymnases. Donc, tous les endroits où on peut venir naturellement pour passer quelques heures et se sentir mieux.
En quelque sorte, des oasis de fraîcheur au milieu de la ville. Quand on voit qu'il y a près de 5500 écoles totalement ou partiellement fermées hier et encore aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait même imaginer de faire cours dans ces églises ou dans ces gymnases ou dans ces refuges climatiques ?
Alors oui, tout à fait, parce que les enfants se retrouvent à la maison et les maisons peuvent être en surchauffe. Ce qui est effectivement
pire.
Donc trouver des endroits plus frais pour les enfants, ce serait une solution pour organiser des classes, effectivement, et que les cours puissent continuer.
L'exemple des gymnases, il est très intéressant parce qu'en fait, les gymnases sont déjà réquisitionnés dès qu'il y a des catastrophes, dès qu'il y a des déplacés, dès qu'il y a des problèmes d'inondation. Donc au fond, on sait réquisitionner les gymnases. Pour vous, il faudrait juste le faire aussi en cas de grosse chaleur.
Bah exactement, il y a des plans grand froid, il faudrait des plans grand chaud qu'on puisse déclencher et qui permettent effectivement d'aller directement dans ces refuges.
Les plans grand froid et les plans grand chaud, c'est effectivement tout à fait logique quand on vous écoute, et on se dit que c'est assez étonnant qu'on ne l'ait pas imaginé comme ça. Voilà, ça c'est l'urgence. Et puis il y a aussi l'adaptation à plus long terme. Qu'est-ce qu'on fait ? Les changements, ça prend du temps, ça coûte très cher. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on nous dit on va adapter le bâti, mais que ça prendra très 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 longtemps. On a même le directeur du Centre scientifique et technique du bâtiment qui nous dit il faudra plusieurs siècles pour rénover l'ensemble du parc immobilier. Il a raison ou pas ?
Alors, pour tout rénover, oui. Pour installer rapidement des climatisations, des volets ou ces refuges climatiques, ça peut se faire de façon beaucoup plus rapide. Ça nécessite une mobilisation collective, c'est ça la clé, et en particulier au niveau des maires et des villes, puisque c'est là où ça se passe. Et ça, ça peut se faire sur une dizaine d'années. On a eu des déploiements de fibres, des déploiements d'électricité dans le passé qu'on a fait de façon assez rapide sur quelques années ou quelques décennies. Donc c'est tout à fait envisageable.
On a su faire la fibre, pourquoi on ne sait pas faire les volets ?
On pourrait tout à fait. Il y a 5 millions de Français qui sont dans les zones critiques de la chaleur. Donc c'est eux qui devraient être en priorité concernés. En priorité, les personnes les plus vulnérables. Et donc, il y a le blocage, il est surtout de passer à l'action par des financements, par une mobilisation politique pour effectivement déployer des solutions dont certaines peuvent être très simples.
Je suis quand même frappée que quand on va dans des villes plus méditerranéennes, quand on va même à Rome ou quand on va à Madrid, il y a ces habitudes. À Rome, l'été, vous ne voyez que des volets fermés ou un peu entrouverts, où on aperçoit vaguement une silhouette derrière. Les gens ont l'habitude de laisser les volets fermés. Comment est-ce possible qu'on ait perdu ? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, il y a eu une sorte de rupture ? Ils existent ces volets, pourquoi on les a enlevés et jamais remis ?
Alors pas toujours, à Paris, dans l'Haussmannien, il n'y a pas toujours des volets. On n'a pas de culture climatique en France, surtout dans la partie nord, parce qu'on a un climat qui est historiquement tempéré. Le problème, c'était le froid. Et donc la chaleur, c'est nouveau, donc c'est aussi quelque chose qu'on apprend, alors un peu dans la difficulté, mais on apprend à fermer les volets la journée, à ouvrir les fenêtres la nuit, et c'est un premier rempart contre la chaleur.
Est-ce qu'il y a une forme de déni de la classe politique ? Quand on écoute les réactions, notamment du président de la République depuis deux jours, c'est attention, veillez bien les uns sur les autres, être attentif à nos aînés, à nos enfants, aux personnes isolées, tout cela c'est évident, mais est-ce que là on n'est quand même pas face à année après année une forme de déni des grands plans qui n'ont jamais été vraiment mis en œuvre ?
Il y a à la fois un décalage entre ce que vivent les gens qui sont au quotidien impactés et qui le vivent dans leur chair et effectivement les actions, les discours qui sont menés derrière. On voit dans d'autres pays comme en Espagne, en Italie, vous le citiez, il y a des plans canicules qui sont mis en place effectivement, ce qui suppose cette mobilisation. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque en France, c'est le passage à l'action.
Et une question sur nos centrales nucléaires, est-ce qu'elles vont tenir le coup ? Le réacteur numéro 2 d'une des centrales du Tarn-et-Garonne est à l'arrêt depuis hier soir parce que la rivière est trop chaude, parce qu'il fait trop chaud. Est-ce qu'on a les moyens de tenir du point de vue de l'électricité ?
Alors, il faut espérer que oui. Après, la difficulté, c'est que les canicules se répètent. Et donc, le niveau de l'eau baisse, les températures augmentent. Donc, on voit que petit à petit, ça s'affaiblit. Il faut espérer qu'il n'y ait pas une nouvelle canicule qui arrive en juillet et qui, là, serait sans doute plus critique encore que celle qu'on vit aujourd'hui.
Et on va croiser les doigts. Merci beaucoup, Franck Lirzin, d'avoir été avec nous ce matin. Des réactions également de tous ceux qui souffrent de la chaleur.
Et chacun voit son refuge climatique à sa porte. On a d'abord Anto qui nous dit « Moi, j'ai demandé à mon maire d'ouvrir la salle des fêtes qui est tout juste rénovée ou alors l'autre école d'à côté, une salle de la mairie. On m'a répondu que ce n'était pas possible. » On a aussi Julien qui a une solution un peu plus insolite qui nous dit « Chez nous, en Touraine, il y a des caves qui sont aménagées qui pourrait accueillir des centaines de personnes à 15 degrés pour faire refuge climatique. »
Les caves de Tuffaut de la Touraine. Merci en tout cas. On en reparlera avec Cécile Duflo à 7h50. On en reparlera aussi à 8h30 avec Patrick Martin, le patron des patrons. Je lui poserai aussi la question du congé climatique que proposent les écolos. Patrick Martin qui sera mon invité à 8h30. Mais pour l'heure, à 7h21, on va remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Historien d'Apolline Matin, l'historien et résistant français Marc Bloch va faire son entrée au Panthéon et c'est un symbole pour la France.
Ah oui, un intellectuel, ancien combattant et résistant juif abattu par la Gestapo. C'est l'histoire de France qui entre au Panthéon avec Marie-Bloch Capoline.
Vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demanche qui arrive pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 30 secondes. Il est 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour, 7h22 sur RMC et RMC Story. Arthur, ce soir, l'historien Marc Bloch va faire son entrée au Panthéon, cérémonie et discours du président de la République. Et justement Arthur, vous étiez hier avec Emmanuel Macron au Panthéon, dans les derniers préparatifs, vous-même en tant qu'historien.
Oui, c'est la 6e panthéonisation d'Emmanuel Macron depuis son entrée en fonction. Elle aura donc lieu ce soir à 21h. Et ça sera peut-être la dernière, hein, puisque le président quitte le pouvoir dans un an. Alors soyons clairs, cette entrée au Panthéon, Apolline, ça sera forcément un message politique.
Emmanuel Macron s'est même confié à vous. Il vous a dit la raison pour laquelle il avait choisi Marc Bloch.
Mais absolument, il me l'a dit. Marc Bloch, c'était un des plus grands historiens du XXe siècle, qui était aussi professeur à l'université. On lui doit des livres très marquants. Et pour le président, le faire entrer au Panthéon, c'est d'abord rendre hommage aux enseignants qui ont beaucoup souffert ces dernières années, notamment avec l'assassinat de Samuel Paty, Dominique Bernard ou encore Agnès Lassalle. Cette panthéonisation, c'est donc remettre l'éducation au centre du projet républicain. Et Emmanuel Macron a prononcé une phrase que j'ai trouvée très très juste. Cette phrase, la voici. Marc Bloch incarne la République scientifique.
La République scientifique. Marc Bloch, c'est aussi un grand soldat.
Et oui, puisqu'il a combattu avec héroïsme pendant la Première Guerre mondiale, donc de 1914-1918. Il a même reçu la Croix de Guerre, hein, qui est la plus haute distinction militaire française. Mais c'est pas tout, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il a 53 ans, qu'il est malade, qu'il est père de famille nombreuse, il va s'engager volontairement dans l'armée pour servir à nouveau son pays.
Et Marc Bloch va aussi affronter l'antisémitisme.
Absolument. Pendant l'occupation, donc entre 1940 et 1945, c'est le maréchal Pétain qui dirige la France et il met en place un antisémitisme d'État. En gros, les Juifs n'avaient plus aucun droit, ou presque. Marc Bloch, qui était juif, va donc tout perdre. Alors normalement, les Juifs n'avaient pas le droit d'être professeurs. Mais Marc Bloch avait été tellement courageux pendant la Première Guerre mondiale qu'il a obtenu une exemption pour service rendu à la France qui était très très rare. On lui prend quand même son appartement parisien. Du coup, il est obligé de se réfugier dans la Creuse.
Mais là encore, il ne se laisse pas abattre.
Et non, puisqu'il va s'engager dans la résistance à 56 ans. Un dernier acte de bravoure qu'il va payer très cher puisqu'en 1944, il est arrêté à Lyon avant d'être emprisonné, torturé et exécuté par la Gestapo, la police politique des nazis. C'est donc à un patriote exemplaire qu'on rendra hommage ce soir, un intellectuel et un homme d'action à la fois, ce qui est rare.
Merci beaucoup Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, et je ne peux que recommander la lecture, la relecture de L'étrange défaite qui dit tant aussi des fragilités de la France. Votre chronique à lire et à retrouver et à écouter sans s'enlacer en podcast et sur le site et l'application RMC. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Et bonjour.
Vous avez entendu le mot héroïsme prononcé par Arthur Chevalier, l'héroïsme de Marc Bloch. Nous avons un héros, nous, Arnaud Demange. Arnaud, à 8h30 tout à l'heure, mon invité, c'est le patron des patrons, Patrick Martin.
Il fait chaud ce matin. Et Patrick Martin répondra donc à la question, peut-on travailler en pleine canicule? Voici sa réponse.
Allez, va bosser, feignant. La France a besoin de toi.
Non, parce qu'il y a un vrai débat en ce moment. Vous avez vu Valérie Pécresse, qui est quand même la présidente de la région Île-de-France, c'est pas rien. Elle a recommandé de privilégier le télétravail. Eh ben nous, on l'a bien écouté, parce que ce matin, on est tous là. On est tous au boulot, autour de la table. Vous avez vu, on est là, monsieur Martin. Hein. Nous, on est là, monsieur Sadé. Hein. Moi, je suis là, monsieur Sadé. J'ai hésité à venir, eh ben, parce que j'avais quand même un mot d'excuse de la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Ben, je suis venu, alors, juste pour profiter de la clim. Hein, ça faut être honnête. C'est... Moi, je vais passer toute ma journée dans les locaux de RMC. C'est pas climatisé chez moi. Hein. Mmh. Alors, du coup, je vais faire toutes les émissions au frais. Voilà, Apolline Matin. Après, j'irai dans les grandes gueules. Mmh. Je dirai, c'est quand même dur la canicule. Qu'est-ce que t'en penses, Charles Consigny? Ben, écoutez, je trouve qu'on se prend la tête pour 3 jours de chaleur. Bon, effectivement excessive. Mais dans ce pays de feignasses, d'assister. Ne m'interromps pas quand je parle, Arnaud, s'il te plaît. Dès qu'on peut trouver une excuse pour pas en foutre une rame, excusez-moi, voilà. Mais je sais pas ce qu'en pense Emmanuel de Villiers. Ceux qui ont arrêté de bosser, c'est les communistes. Ils veulent mettre la France à genoux. C'est des millions de morts, le communisme. Macron a cédé. Voilà. Après, je vais aller chez Estelle Midi pour débattre de l'opportunité ou pas de faire des barbecues, quels légumes on choisit pour les faire griller, quelles saucisses. Et puis après, je vais débriefer le match des Bleus jusqu'à minuit dans l'after et proposer de faire jouer Mbappé latéral droit. Attends, t'es malade, tu veux une tarte? Ah, Daniel, il déconne, Daniel. Tiens, une journée. Je vais passer ma journée là.
C'est une bien belle journée. Ouais.
Alors, le gros débat du week-end sur les chaînes info, c'était les climatiseurs sont-ils de droite? Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se sont opposés sur le sujet. Marine Le Pen a appelé à massivement climatiser les locaux publics. Son père, Jean-Marie Le Pen, il aurait été plus loin, il aurait dit « Climatiser les locaux publics, absolument, n'est-ce pas ?» Mais est-ce bien nécessaire de le faire à la caisse d'allocation familiale où les usagers ont déjà l'habitude de la chaleur, si vous voyez ce que je veux dire? Et Jean-Luc Mélenchon a répondu « Marine Le Pen n'y connaît rien, climatiser partout, ça va augmenter les dégâts. » En fait, il faut organiser le prochain débat de la présidentielle dans les rayons de Darty,
mais voilà,
avec Gabriel Attal qui dira « Contre la canicule ?» Il faut décaniculer, madame de Malherbe. Un grand décaniculage doit avoir lieu. Décaniculons, décaniculons, décaniculons. Ohé, ohé.
Rendez-vous avec
Patrick à 8h30.
C'était Arnaud Demange, mesdames, messieurs, qu'on retrouve évidemment à 8h15 en direct. Il est 7h28, à tout de suite pour la météo du journal. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Près de 39 millions de Français luttent contre la canicule, une canicule qui perturbe le système scolaire, école fermée, horaires aménagés.
et système D pour éviter la fournaise dans les classes. Face à cette fournaise, le monde agricole souffle. Les éleveurs, céréaliers, agriculteurs obligés de s'adapter au jour le jour. Les Bleus qualifiés pour les 16e de finale au bout de la nuit. Victoire 3-0 face à l'Irak dans une rencontre interrompue pendant plus de 2 heures par les orages.
Et de nombreux enfants resteront encore à la maison aujourd'hui.
La chaleur perturbe le bon déroulement des établissements scolaires. Plus de 1300 écoles fermées hier. Plus de 4000 ont aménagé leurs horaires. Et Caroline Renaud, dans les établissements qui restent ouverts, on s'adapte comme on peut, avec l'aide parfois de parents d'élèves.
Des enfants rouges de chaleur dans une classe à plus de 30 degrés dès le matin. Impossible pour Julie de laisser son fils de 5 ans dans ces conditions.
Il disait que c'était dur dans les classes, qu'il ne travaille plus. On leur a dit, nous, on va essayer de trouver des couvertures de survie. Tout le monde a regardé sa boîte à gants, demandé à ses employeurs.
Avec trois mamans, elle bâche les grandes fenêtres de la cantine.
Il y avait plus cette sensation d'étouffement, de chaleur oppressante. Et les instituts nous ont remerciés.
Dans la classe de la fille d'Axel, un seul ventilateur. Alors lui aussi s'est organisé avec d'autres parents.
Pour acheter du blanc de meudon, trouver quelques éponges et pinceaux, récupérer des échelles où on pouvait.
Puis badigeonner la façade vitrée de l'école d'une couche blanche opaque.
Ce qui fait une espèce de couverture blanche qui absorbe les rayons du soleil et qui évite que ça chauffe trop à l'intérieur de l'école.
Seule astuce selon lui pour aider les enfants face à l'inaction de la mairie.
C'est hallucinant qu'on se retrouve un peu du jour au lendemain à devoir faire ça alors que ça fait maintenant 2-3 ans qu'il y a différents épisodes de canicule, qu'à chaque fois on soulève les mêmes problématiques.
Ce père de famille demande entre autres davantage de ventilateurs et l'installation de filtre solaire sur les vitres de l'école.
Et cette vague de chaleur perturbe également le monde agricole. Cela a des conséquences sur la production, les vignobles, les végétaux et un risque de déshydratation à des animaux. Justement, Jean-Wilfried Forquès, vous êtes en direct de Pibrac, près de Toulouse, pour RMC, ville où on attend aujourd'hui plus de 40 degrés. Et vous êtes avec un céréalier qui est obligé de réorganiser ses journées.
Oui, c'est ça, nous sommes avec Daniel. Daniel qui s'est levé très tôt. À quelle heure, Daniel, ce matin?
Oui, on commence à 5h du matin, de toute façon, à la pointe du jour.
Pour éviter la chaleur, c'est ça?
Pour éviter les fortes chaleurs, entre 14 et 18 heures, comme toutes les professions qui travaillent à l'extérieur.
Et vous, la cabine, elle est climatisée, vous me disiez?
Oui, obligatoire, sinon c'est intenable.
Alors, l'après-midi, vous reposez les corps, vous reposez aussi les machines?
Non, oui, mais ça ne peut pas le faire de mal, puisqu'elles souffrent aussi de la chaleur. Donc, tout le monde se repose l'après-midi et on reparle pour une nouvelle journée le soir.
Voilà, il va faire 50 degrés en plein milieu du champ ici où cet après-midi, eh bien, Daniel va semer du soja sur un champ de blé qui a été récolté. Et en raison du changement climatique, Daniel me disait tout à l'heure que depuis 20 ans, eh bien, les récoltes sont avancées de 2 ou parfois 3 semaines.
Jean-Wilfried Forquès en direct de Pibrac, près de Toulouse, pour RMC. Autre conséquence de cette canicule sur les rails, une panne électrique hier en gare de Bordeaux. Jusqu'à 4 heures de retard, des trains supprimés, des centaines de voyageurs bloqués. Galère également pour les passagers d'un TGV reliant Bâle à Paris. Plus de 6 heures de retard, bloqués sans climatisation hier après-midi en rase campagne, en pleine canicule près de Dijon. Le train est arrivé en gare de Lyon vers 2 heures du matin. Des difficultés également aujourd'hui sur les RER, métro, transilien en Ile-de-France, vitesse réduite et suppression de certains trains, toujours en raison de la chaleur. Deux enfants sont morts hier en début d'après-midi. Ils ont été retrouvés inanimés dans la voiture de leur mère en pleine canicule à Carpentras, dans le Vaucluse. RMC 7h34, première sanction dans l'affaire Liana. Une magistrate du parquet d'Auch est dessaisie des affaires impliquant des mineurs et deux gendarmes du Gers sont mutés et écartés de la police judiciaire. Des mesures annoncées après un rapport interne pointant des défaillances dans le traitement des plaintes. Et pour le ministre Gérald Darmanin, il s'agit selon lui d'abord de fautes individuelles.
Je pense qu'on voit qu'il y a des défaillances très importantes qui ne sont pas dues dans le cas très précis à des manques de moyens ou à des problèmes quelconques. Ils sont dus, me semble-t-il, pour les gendarmes comme pour la magistrature, ici, à des défaillances personnelles. Et je pense que ce n'est pas grave de le reconnaître. Ce n'est pas jeter l'opprobre sur tous les magistrats qui font un travail absolument formidable. Aujourd'hui, ils sont en train de refaire l'intégralité des 70 000 plaintes des viols et des délits sur les mineurs. Donc ils font ce travail très important, mais il arrive qu'il y ait des fautes professionnelles qui soient commises et il faut évidemment les sanctionner.
RMC 7h35, nuit interminable pour les Bleus et une qualification pour les 16e de finale. Victoire 3-0 contre l'Irak grâce à un doublé de Mbappé et un but de Dembélé dans un match interrompu plus de 2 heures en raison de violents orages. Un scénario inédit dans ce mondial, Valentin Jamin.
Oui, à commencer par les joueurs qui, à chaque impact de foudre, voyaient l'heure de reprise repoussée, raconte le capitaine Kylian Mbappé.
Émotionnellement, nerveusement, c'est très difficile. On devait rester concentré, on devait rester concerné. Ça demande beaucoup. Les joueurs ont fait un grand effort, le staff aussi.
Les Bleus ont eu une collation et ont tout fait pour rester dans le match, explique le défenseur Jules Koundé.
On a essayé de rester chaud, en faisant du vélo, mobilité, ce genre de choses. On discutait du match.
En attendant, les supporters, sommés de quitter leur siège, ont rempli les coursifs pendant cette pause attendue très longtemps. Temps devant les stands pour boire, pour manger. Certains en ont souri et profité.
Pour manger des cheesesteaks, pour boire un coup. Il faudrait pas que ça tombe sur un joueur, quoi.
C'est un peu chelou, un petit peu long ce moment d'attente. Ouais. On s'est hydraté un peu.
Je suis bien habillé, j'ai le poncho.
Mais à la fin, Gabriel en a eu marre.
Bon, il y a de la pluie dans tous les pays. En France, on en a tous les jours quasiment, au moins 6 mois de l'année. Les matchs s'arrêtent pas, le travail s'arrête pas. Je trouve que c'est un peu ridicule, mais bon.
Après une hola, le match est reparti. Et comme récompense, ses supporters ont eu droit à une belle victoire des Bleus.
La Norvège qualifiée également grâce à sa victoire 3-2 face au Sénégal, doublé d'Haaland. La première place se jouera entre la France et la Norvège ce vendredi à 21h. Victoire ce matin de l'Algérie, 2-1 face à la Jordanie. Les partenaires de Mahrez joueront leur qualification sur le dernier match contre l'Autriche. 4 matchs au programme aujourd'hui, Portugal, Ouzbékistan ou encore Angleterre, Ghana. Toutes ces rencontres sont bien sûr à suivre en direct sur AMC, sur la radio digitale 100% Coupe du Monde.
Et puis les courses, le quintet, c'est sur l'hippodrome de Dieppe à 18h30.
Et le pronostic de Frédéric Kita, son favori le 5 Mister Chang et son outsider le 7 Bayless Bachelor.
Et puis c'est le moment de jouer non seulement au quintet mais à la prime de match. Mais oui, la prime de match, la nouvelle prime de match qui est à nouveau en jeu. Il y avait 30 000 euros, souvenez-vous, au départ, 30 000 euros et on a rajouté 500 euros à chaque but marqué depuis cette Coupe du Monde. Au moment où on se parle, la prime est donc, attention, de 36 500 euros. Retenez bien ce montant parce qu'à tout moment, on peut vous appeler. Et si vous connaissez le montant de la prime, elle est pour vous. Pour vous inscrire, vous envoyez maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
C'est terminé. La victoire de l'équipe de France, 3-0 face à l'Irak. Les Bleus qualifiés mathématiquement pour la suite.
Les Bleus qualifiés pour les 16e de finale. Victoire 3-0 contre l'Irak cette nuit. Un match interrompu par les orages qui s'est terminé à 3h du matin. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour Apolline, bonjour
Eric,
à tous.
Eric, notre fil rouge pour suivre cette Coupe du Monde, jour et nuit, des Bleus sereins. Et c'est ce que vous nous direz dans un instant. Il y aura aussi Jean-Louis Tour qui sera en direct avec nous, la voix du foot sur RMC. Il a commenté le match au stade de Philadelphie. Il nous racontera comment cette très très longue coupure, plus de 2 heures au milieu du match, s'est déroulée. Allez, à tout de suite, on vous raconte tout, 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42, il vous reste 6 minutes pour gagner la prime de match. N'oubliez pas, jusqu'à 7h48, si vous envoyez but au 7-32-16, but au 7-32-16, alors vous pourrez être tiré au sort et c'est la somme de 36 500 euros que vous gagnerez. 36 500 euros, voilà la cagnotte de la prime de match. Envoyez but au 7-32-16, il vous reste 6 minutes. Il est 7h42.
Il est 1h45 si vous nous écoutez en France. Vous ne voulez pas vous coucher sans le résultat final de France-Irak. Les deux équipes sont de retour à l'échauffement sur la pelouse et ça va reprendre d'ici quelques minutes.
D'ici quelques minutes, non. Ça a duré beaucoup, beaucoup plus longtemps. Quasiment 2 heures de coupure après des orages au-dessus de Philadelphie. C'était donc cette nuit. Mais la France qualifiée pour les 16e de finale. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour.
Notre fil rouge pour suivre cette Coupe du Monde, victoire 3-0 contre l'Irak cette nuit, doublé de Mbappé, un but, le premier d'Ousmane Dembélé. Vous allez nous dire comment vous avez trouvé les Bleus, mais d'abord, effectivement, on revient quand même sur ce match interminable. Jean-Louis Tour, qui a non seulement veillé cette nuit, mais qui veille encore ce matin. Jean-Louis Tour en direct de Philadelphie. Un match qui s'est donc terminé à 3h heure française, cette interruption interminable. Vous l'aviez imaginé pour quelques minutes, ça a duré plus de 2 heures. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'on fait d'abord, les supporters? Qu'est-ce qu'ont fait les joueurs? Comment ils ont vécu ce moment?
Ouais, 2h12, hein, ça a duré. 2h12 en tout, entre la mi-temps sifflée et la reprise de la deuxième période. Alors les joueurs, déjà ils n'avaient jamais vu ça. Même Didier Deschamps, il a dit, ça a été la mi-temps la plus longue de ma carrière. Donc bah ils se sont occupés en faisant un peu d'activation, du vélo, une petite collation, en discutant du match. Mais surtout, bah ils ont vu le temps long parce qu'en plus c'était incertain. Toutes les demi-heures, on leur rajoutait du temps avant que ça reprenne. À chaque fois que la foudre tombait quelque part aux alentours du stade, on remettait une demi-heure. Et alors par contre les supporters, il y a un moment qui était génial. Franchement, pendant une demi-heure, c'était karaoké géant, ambiance boîte de nuit autour de nous en tribune, parce qu'ils se sont dit quitte à attendre, autant s'amuser un peu. Donc voilà, ils ont passé un bon moment, les supporters, et d'ailleurs personne n'a quitté le stade.
Ouais, ça a été pris plutôt franchement avec le sourire, avec la bonne humeur du côté des supporters, du côté des joueurs aussi, même si honnêtement on se dit comment remettre toute l'énergie en route quand on s'est arrêté si longtemps.
Oui, bah à l'arrivée ils nous ont montré quand même qu'ils y sont parvenus. Alors il y a eu un échauffement assez long, Mbappé tenait Deschamps aussi à ce qu'il s'échauffe longuement avant de reprendre. On a vu même Kylian Mbappé parler aux jardiniers pour montrer les endroits où il fallait drainer un peu mieux la pelouse parce qu'elle était gorgée d'eau à ce moment-là. Donc voilà, Deschamps en tout cas globalement il sort quand même satisfait parce qu'il y a la victoire, il y a pas de blessés, ça aurait pu être le cas avec cette pelouse détrempée à la fin. Et puis tout le monde est rentré, alors forcément ils ont atterri il y a quelques minutes à Boston où ils vont pouvoir se reposer maintenant, avec un peu de retard dû à l'interruption, mais Deschamps avait même peur que l'avion ait quelques soucis avec les orages, mais ça là-dessus, il n'y a eu aucun souci, donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur la Norvège.
On va pouvoir se concentrer sur la suite, et vous allez pouvoir dormir un peu. Merci beaucoup Jean-Louis Tour, en direct de Philadelphie, retour ici avec vous Eric Dimeco. Honnêtement, on se dit que ça devait être assez dur de vivre cette interruption pour les joueurs, mais ils ont montré qu'ils étaient totalement au niveau, quoi.
Oui, c'est pas évident. Après, il y a des protocoles. Ils s'y attendaient. Hein. C'était annoncé cette météo. Il y avait même un doute sur la tenue du match ou non. Il y a quelques jours, donc je pense qu'ils y étaient préparés. Alors après, oui, il faut rester. Surtout, le gros problème, c'est de se blesser en reprenant parce que on est froid ou on s'est pas bien échauffé et le petit coup de fringale au bout de 4 heures, je sais plus combien de temps a duré ce match à l'arrivée, voilà. Donc ça a été bien géré, mais l'équipe de France est quand même pourvue de gens qui savent gérer ce genre de problème.
3-0 contre l'Irak, victoire plutôt facile.
Oui, bon, après c'était c'est pas l'exploit de l'année, hein, Pauline, hein, c'était attendu. Non, mais l'équipe de France a fait le job.
Non, mais c'est surtout
que on présente toujours l'équipe de France de Didier Deschamps comme une équipe qui a du mal contre les équipes qui jouent bas et qui et quand on doit faire le jeu. Voilà. Donc là, ça a pas été le cas. Et j'ai trouvé, puisqu'on surveille particulièrement l'animation offensive, défensivement, on peut pas tirer trop d'enseignement de ce genre de match et de ce genre d'adversaire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait du progrès. J'ai bien aimé la présence de Barcola côté gauche, Dembélé qui du coup fait une bonne deuxième mi-temps, passeur décisif et buteur. Voilà, il y a des enseignements à tirer, pas définitivement, mais en tout cas des points positifs, on va dire.
Des points positifs et effectivement cette nuit interminable. Carole, vous l'avez vécu. Bonjour Carole. Comment ça va Carole? Vous nous appelez au 32-16 depuis Vic-le-Comte dans le...
Oui, bonjour.
Comment ça va? Vous n'avez pas dormi vous?
Oh, ben alors, moi j'ai eu du mal, c'est un truc de fou ce match.
C'était un truc de fou à vivre.
Le troisième but, je ne l'ai pas vu.
Dommage pour Dembélé.
Je suis tombée, j'ai changé de chaîne en attendant que ça revienne, ouais. Ça ne revenait pas. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais après, je suis tombée, j'ai plus rien vu.
Ah bon, mais vous êtes tombée quoi, de sommeil?
Ah voilà.
Non, bah après on avait de la chance, le raconter
à Carole du coup, Eric.
De quoi le match? La fin. Oh, superbe but de Dembélé, voilà, avec une belle passe d'Olysée. Mais on a eu la chance. Il était une fois en Amérique pour la 63e fois que j'ai regardé mon film préféré sur la chaîne juste après le match de l'équipe de France.
Zapper.
Donc exactement.
Ça permettait de zapper sans trop de difficultés.
Exactement.
Carole, vous allez dormir aujourd'hui du coup? Comment vous faites? Vous êtes retraitée, je crois.
Oui. 6h du matin pour ouvrir les fenêtres, quand même, pour la fraîcheur.
Mmh.
Hein, voilà.
Vous vous en sortez dans le Puy-de-Dôme?
Comment?
Vous vous en sortez dans le Puy-de-Dôme?
Il fait très très chaud, hein.
Ouais, très très chaud.
Il fait vraiment très chaud là, hein.
Bon, bah, prenez soin de vous, Carole, qui a donc veillé, mais pas tout à fait jusqu'au bout. Eric, on va essayer de se projeter aussi sur la suite. Donc, le dernier match de poule, vendredi 21h, contre la Norvège, qui a battu le Sénégal cette nuit. Ça, ce sera la fin. Bon, c'est le match des coiffeurs, comme on dit. Hein.
Pas tout à fait. Je suis pas d'accord sur ce coup-là. C'est un adversaire qui est intéressant. Même si première place, deuxième place, j'ai regardé un petit peu. Soit on se retrouve du côté de l'Allemagne, Pays-Bas, Espagne, soit du côté du Brésil, Angleterre, Argentine. Donc à peu près le même niveau. Mais moi, je pense qu'il faut pas casser la dynamique. Les victoires appellent des victoires. L'équipe de France est en train de monter en puissance. Ça va être un test défensif ce coup-ci contre la Norvège. Et on n'a pas beaucoup de références. On sait qu'on est une défense centrale très forte. On a toujours des doutes sur les latéraux et sur le bloc défensif en général. On a vu Mbappé défendre hier soir à un moment donné ou plusieurs fois. Donc ça, c'est bon signe, mais il va falloir le faire contre des nations comme la Norvège. Donc non, pas match des coiffeurs.
Faut pas lâcher.
Non, il y a pas beaucoup de différence dans la suite de la compétition. Par contre, continuer à gagner et notamment contre cette équipe-là, ça peut faire que du bien pour moi.
Eric, cette nuit, et ça s'est terminé il y a quelques minutes, l'autre match qu'on a pu suivre sur RMC, c'était Jordanie-Algérie, et l'Algérie qui a fini par gagner 2-1 alors qu'elle était menée 1-0. Ça tient quasiment du miracle, hein.
Oui, les Algériens en grande difficulté, sauvés par le petit Gouiri, un petit Marseillais. Donc ça m'a fait plaisir de le voir marquer à la fin. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que voyez, l'Algérie a des difficultés. C'est peut-être plus la génération dorée qu'ils ont pu avoir il y a encore très peu de temps. Là c'est compliqué. Mais maintenant, en gagnant un match, il y a peut-être un petit imagine derrière, ils vont passer.
Ouais, et peut-être qu'ils vont passer. Merci beaucoup en tout cas Eric Dimeco, ancien international tricolore, consultant RMC, et on suit avec vous cette Coupe du Monde sur RMC et dans Pauline Matin. Il est 7h50 et dans un instant, c'est la voix de gauche sur RMC, Cécile Duflot. Bonjour Cécile.
Bonjour
Pauline.
Des
routes qui fondent, des trains qui ne circulent plus face à la canicule, la France est-elle prête?
Non, elle n'est pas prête, c'est inquiétant, et le plus inquiétant je trouve, c'est qu'on n'en parle pas du tout.
Enfin, on en parle là quoi, mais après on n'en parle plus, puis après on se dit que ça va revenir. En tout cas, on en parle à 7h50 sur RMC avec vous. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche, mais d'abord le bonus, Victor. Il n'y a pas que les Bleus qui ont subi une interruption hier soir.
Eh oui, là on est loin des Mbappé, des Olise, des Dembélé. C'était le concert parisien du groupe Iron Maiden, tout juste revenu du Hellfest et qui s'est subitement interrompu. Et pour cause, blackout complet à la Défense Arena. Alors, Fear of the Dark, c'est assez cocasse. Coupure de courant générale pendant une heure dans la plus grande salle d'Europe. Alors oui, ça a finalement repris, mais à cause d'un couvre-feu, figurez-vous, imposé par la salle. Pas moyen d'aller au-delà des 23h30. Alors le chanteur Bruce Dickinson l'a dit sur scène, il préfère Bercy.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche,
voix de droite.
7h53, la voix de gauche sur RMC, c'est vous, Cécile Duflot. Bonjour Cécile. Des dizaines
Bonjour,
de
Pauline.
Trains supprimés, des gros retards sur certaines grandes lignes. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui incite les salariés à privilégier le télétravail. Et encore ce matin, des mauvaises nouvelles du côté des RER. Il n'y a pas que les êtres vivants qui souffrent de la chaleur. Nos infrastructures souffrent aussi, Cécile.
Oui, elles souffrent beaucoup parce qu'elles sont pas du tout faites pour ces températures, elles sont pas du tout faites pour le climat qui change. Notamment les rails. Les rails, en fait, ils sont posés à une certaine température, ils peuvent se dilater, c'est-à-dire quand il fait chaud, l'acier grossit. Sauf que, c'est assez mécanique. Au-delà d'une certaine température, il tient plus, il craque et il fait des sortes de bulles, de poches et c'est ce qu'on appelle le flambement. Et du coup, vous imaginez, si des trains roulent sur des rails qui sont plus droits, c'est dramatique. Mais il y a aussi les caténaires qui se détendent. Et puis, quand ça n'est pas la chaleur et qu'il y a beaucoup trop de pluie, ça fait des glissements de terrain, ça fait le ballast, les cailloux sous les voies qui s'en vont ou des arbres qui tombent sur la voie. Vous voyez que le tableau est quand même compliqué.
Donc on va faire quoi ? On va prendre la voiture ?
Eh ben, si on prend la voiture, c'est pas mieux. C'est pas mieux parce que quand il y a une grande chaleur, la route souffre de deux problèmes. C'est des mots un peu techniques, mais on va très bien les comprendre. Ça s'appelle le ressuage et l'ornirage. En gros, le bitume, il devient tout liquide, il remonte, donc vous pouvez glisser dessus. Déjà, c'est très dangereux. Et ensuite, s'il y a un camion qui passe, ça fait des grosses ornières. Et si c'est sur une route rapide ou une autoroute, vous imaginez le danger. Mais par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle le retrait gonflement des argiles. Donc, vous voyez bien les maisons qui se fissurent. Ça fait pareil avec les routes et ça peut faire des grandes coupures. Le CEREMA, qui est le centre qui analyse ces infrastructures, dit que des milliers de kilomètres sont menacés.
Avec une autre question aussi, c'est la question des centrales nucléaires. Est-ce qu'elles vont supporter la chaleur ?
C'est globalement le réseau électrique. Donc, et ça, c'est, j'entends, vous avez vu, pendant plusieurs jours, on a dit non, mais c'est pas grave, on n'a qu'à mettre des climatiseurs qui fonctionnent à l'électricité. Le problème, c'est que les centrales nucléaires souffrent de la chaleur. Si l'eau est au-delà de 28, elles ne peuvent plus pomper de l'eau pour se rafraîchir. Donc, c'est un énorme souci parce qu'une centrale nucléaire, ça fonctionne avec beaucoup d'eau. Donc, si les fleuves sèchent, c'est compliqué. Mais le réseau électrique lui-même souffre de la chaleur. Au-delà d'une certaine température, les lignes à très haute tension, on est obligé de baisser la puissance parce qu'elles ne peuvent plus non plus se rafraîchir suffisamment. Et les transformateurs peuvent eux aussi souffrir gravement de la chaleur avec des risques d'incendie. Donc on voit bien que le réseau électrique aussi est vulnérable.
Alors tout ça, c'est quand même assez apocalyptique ce que vous nous racontez. Est-ce que personne n'a anticipé ces questions-là ?
Alors, d'une certaine manière, oui, et d'une autre, non. Oui, parce que tout ce que je vous raconte, c'est basé sur des études scientifiques, des études du CEREMA, des études des ministères. Tout ça est très documenté, ça figure aussi dans le plan national d'adaptation au changement climatique, mais on n'a pas du tout décidé ni mis les moyens politiques pour justement agir. En sachant que sur certains sujets, je parlais des gonflements d'argile, on peut pas faire grand-chose. Donc on est obligé de surveiller, de faire des travaux de réparation. On va devoir beaucoup plus faire attention aux effondrements en montagne aussi, donc il faut mettre des moyens sur l'adaptation au changement climatique. Sinon, en fait, c'est toutes nos infrastructures qui vont s'écrouler pour une raison très simple. Elles ont été conçues, un peu comme nous d'ailleurs, l'être humain, avec un certain climat assez stable. On a mis des marges de sécurité, mais ces marges de sécurité, elles sont explosées par ce qui se passe. Par exemple, un autre exemple, les ponts, ils ont des joints de dilatation, mais si vous dépassez certaines températures, ces joints de dilatation, ils pètent et on ne pourra plus utiliser les ponts. Donc là, tout le monde devrait se réveiller. J'ai déjà dit sur la question de la santé jeudi dernier qu'il fallait une mobilisation générale. Mais en fait, c'est la santé de notre vie collective, des humains, mais aussi tout ce qui nous entoure et toutes les infrastructures dont il faut prendre soin maintenant, tout de suite.
Donc mettre en œuvre un grand plan national d'adaptation. Merci beaucoup Cécile Duflo qui appelle à cette prise de conscience. Cécile Duflo, ancienne ministre et voix de gauche sur RMC. Demain, ce sera la voix de droite Louis Sarkozy. D'ailleurs, tiens, à 7h57, notez-le, dans un instant, ce sera la météo avec Géraldine Devory. Et le journal de 8h à la une, c'est 54 départements en vigilance rouge canicule. Nous serons avec les voyageurs qui galèrent à cause de ces températures extrêmes dont nous parlait à l'instant Cécile. Juste après le journal L'Économie, avec vous Emmanuel Le Chip.
Bonjour.
Emmanuel, Cécile aussi commençait à l'évoquer, à cause de la chaleur, il y a les factures d'électricité qui pourraient flamber.
Oui, alors on risque des coupures et je vous dirai combien aussi tout ça va nous coûter, hein, la canicule, si vous utilisez un ventilateur, un climatiseur, combien en plus sur la facture.
Combien en plus sur la facture, c'est très précis les chiffres sur RMC, il est 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.